Pour revenir à cette question de la crise de l'écoute, me fait penser à un problème qui est récurrent, d'abord de savoir de quelle nature il est, mais je le vois bien aussi que quand on parle, nous, dans le domaine de l'idiothèque, puisque c'est un petit peu mon domaine aussi, on parle de la fondation de la lecture silencieuse. Au moment du XIIe siècle, on dit que s'invente quelque chose qu'on appelle la lecture silencieuse et quelque chose que l'on repère en fait dans Saint-Augustin, dans les mémoires de Saint-Augustin, quand il va à Milan écouter l'évêque de Milan à ce moment-là et constate que Saint-Ambroise est en train de lire d'une manière silencieuse. Alors qu'il pensait que la lecture, elle était toujours oralisée. Et effectivement, à partir du moment où on admet cette notion de lecture silencieuse, on est dans une sorte de révolution. C'est que quand on lit, on construit un objet de représentation qui, bien sûr, a des éléments avec le réel, mais est proprement interne à la personne qui lit. Il fait sa représentation lui-même par des processus inconscients. Et dans le processus d'écoute silencieuse, semblerait qu'il y ait une distorsion, je ne sais de quelle nature, mais qu'il y aurait une crise que les personnes qui écoutent sont devant l'inaudible. L'on ne peut pas entendre puisque, par essence, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu. Mmh. Et c'est ça qui nous attire.
Oui, ça me fait penser à ce festival berlinois qui s'appelle Une Hörte Musik. Et quand je demandais ce que voulait dire Une Hörte, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est autant inouï qu'inaudible. Ce qui est un très bon terme, comme toujours l'allemand, qui a cette polysémie en lui témoigne du lien qu'on vient d'évoquer, que tu viens d'évoquer entre l'inouï et l'inaudible. Oui, alors moi j'ai plusieurs éléments comme ça. L'une, c'est je pense une phrase d'Ivo Malek qui m'avait beaucoup touché. Il parlait de la difficulté de l'écoute des musiques contemporaines. Et il disait une chose qui était que finalement, face à l'inouï, on n'a aucune arme pour déceler ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et en enlevant ce pouvoir à l'auditeur sur l'œuvre, ce pouvoir de discernement de la fausse note, eh bien, il refuse de se soumettre au pouvoir de l'œuvre. Quelque chose comme ça. Alors, je pense aussi à une phrase d'Adorno qui est un des éléments de la critique à la forme de représentation frontale du concert et à son rituel, ce qu'on essaie d'éclater justement dans la Biennale avec des formes comme le Liquid Room avec Ictus ou d'autres formes d'ailleurs avec cette bulle aussi. Lui, il parle du fauteuil d'orchestre comme étant le mât auquel est attaché Ulysse. Mais lui dit le bourgeois, pour ne pas céder face à l'enchantement du chant des sirènes, pour ainsi dire, qui est à l'immensité de l'expérience de l'écoute. Donc déjà, le fait de l'avoir codifié, cette écoute, à un certain moment, est un rapport à cette écoute, justement. Il faut s'asseoir tous ensemble, de façon docile, ne pas tousser, ne pas faire de bruit. Il y a vraiment quelque chose de ça. Alors, il y a cet article de Jean-Luc Plouvier, justement, de l'ensemble Ictus, qu'il avait écrit pour la revue de Manifeste de l'IRCAM, il y a quelques années, où il témoignait du fait que la toux était le retour du refoulé, pour ainsi dire, du spectateur contraint à entendre des sons très 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 petits où même son corps est pour ainsi dire est plus fort que ce qu'il entend. Donc ça le force effectivement à se mettre dans une position telle que il ne peut pas et son corps s'exprime. Voilà, dans son animalité, en tout cas dans sa physiologie. Donc voilà, l'écoute, j'ai pas d'éléments, hein, je divague un peu sur différents points comme ça que j'ai entendu sur cette question qu'on se pose sur l'écoute. Après, il y a aussi le fait, je pense, qu'il y a des musiques qui sont quand même très spectaculaires, les techniques instrumentales d'aujourd'hui, les approches prothétique de certains compositeurs qui partent vraiment du territoire même de l'instrument. Bon, alors voilà, des modes de jeu jusqu'à la prothèse. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus dans le spectaculaire C'est ce que Jean-Luc Pluvier dit quand il parle d'un déplacement de la virtuosité. C'est-à-dire que la virtuosité est quand même le truc qui a tenu une écoute pendant longtemps, le fait d'être possédé, non, il parle de ça. Et ben le fait d'être possédé par bien d'autres choses que tout simplement la tenue d'un archet correctement pour créer voilà le beau son implique, à mon sens, une écoute qui ne peut se faire que dans une salle de spectacle ou que dans un lieu enfin de représentation, quel qu'il soit, à réinventer s'il faut le réinventer dans un hall d'une gare, peu importe. Mais quelque chose qui se voit. Il faut être très 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 aguerri, très initié. Moi, compositeur, bien sûr, j'aime particulièrement écouter de la musique tout seul chez moi avec le casque et la partition en face de moi. Mais bon, ça c'est une écoute très professionnelle. Voir comment est notée telle chose, voir discerner aussi des choses qui peuvent des fois être plus vaguement perçues. Il y a l'écoute du spectacle, d'aller et après écouter de la musique à la radio en faisant quelque chose d'autre. Voilà, c'est une autre écoute encore. Et celle-là, elle est très difficile, je dirais, pour chacun des mortels de porter des écoutes actives, quoi. Moi-même, je suis très très habitué à ce répertoire, donc c'est. Mais il y a quand même quelque chose. Pour moi, même quand au hasard d'allumer la radio, je tombe sur un concert qui est en train d'être diffusé, et d'ailleurs je demande à ce qu'on rediffuse davantage les concerts, qui est justement quelque chose qui se passe de moins en moins, c'est très important, et d'être saisi en fait, d'être saisi par l'inouï. On allume la radio, on entend si ça, bon, voilà, des gens. Situer, tiens, c'est du jazz, ça, tiens, c'est du machin, c'est ci, c'est ça, tiens, bon, voilà. Mais la création contemporaine, pour moi, c'est encore cette capacité d'allumer France Musique et d'avoir en transmission un concert qui est en train d'avoir lieu ou qui a eu lieu là récemment avec telle création et être totalement, mais absolument saisi par l'inouï. Et donc, c'est pour ça qu'on a envie de, quand on dirige une biennale de musique, de transmettre ça avant tout, de transmettre cette épiphanie. C'est le plus important de l'écoute.
Choisissez un romancier comme
oui.
Chemin.
Oui, on a choisi Yannick Enel avec Anouk Avis parce qu'il a écrit avec une plume très très belle le monodrame qu'on va jouer au Théâtre de la Renaissance le 23 mars avec l'ensemble multilatéral et les métaboles, qui est un monodrame de Yann Robin qui s'appelle Le Papillon Noir. Du coup, son approche d'un texte pour la scène, d'un texte qui serait porté par la musique et pourtant qui est un texte récité, nous a fascinés. Moi, je lisais Yannick Enel depuis très longtemps et je sentais qu'il avait cette capacité à émerveiller. En fait, ma réflexion première, elle est venue de ma découverte de Histoire de peinture de Daniel Arras. Où je me suis dit, c'était des émissions, non, dans France Culture, et je me suis dit en lisant ça, qu'il y avait des gens qui avaient vraiment cette capacité d'être passeurs, de vous rendre plus intelligent, de vous donner l'impression que vous l'êtes, non? De vous faire avoir envie d'aller voir cette illustration où vous pourrez, d'aller au Louvre revoir même une banalité qui, à la lecture de Daniel Arras, ne devient plus une banalité comme la Gioconde. Voilà. Et je me suis dit au tout début que c'était exactement de ça dont on avait besoin la musique de création aujourd'hui. C'est-à-dire de passeurs, de gens qui puissent faire passer ça. Quand je parle avec Philippe Ram, qui est un architecte avec lequel on va travailler pour la prochaine biennale, justement, qui est absolument passionné de musique spectrale, entre autres, et un fin connaisseur. Quand on voit son travail, justement, on parlait de transduction, les transductions qu'il fait sur l'évaporation, la radiation, il travaille avec des éléments comme ça et pas que avec du béton armé. Voilà, c'est cette architecture écosystémique. On voit la transduction qu'il en fait avec le spectralisme. Et c'est quand on entend ces gens-là parler de l'émotion que leur a procuré ou telle œuvre et l'approfondissement qu'ils en ont fait après, parce qu'il y a un appel, l'inouï appelle à comprendre quelque part ou à aller plus loin. C'est une écoute qui réveille, je pense, quand on est pris par la musique de création. C'est pas une écoute qui endormit, qui reste là comme un songe. C'est vraiment une écoute qui éveille. Et donc pour moi, Yannick avait cette capacité à le faire déjà. Beaucoup avec la peinture, un peu comme Daniel Arras, mais d'une façon peut-être un peu plus technique, hein, Daniel Arras, mais tout autant désirante, cette question du désir qui manquait pour moi dans ce que j'en voyais de la façon dont on présente ces musiques-là. Et donc ça a été très naturel cette rencontre. On a commencé à parler musique, à boire du vin, à parler beaucoup. Voilà, il m'a parlé de sa découverte de Erwartung un soir en allant au concert, de ce que ça lui a évoqué, les Klangfarben Melodien après, de comment un univers s'est ouvert pour lui, et surtout le fait qu'il mettait toutes ses écoutes au même niveau. Alors c'est pas quelque chose qui plaît, c'est pas quelque chose qui peut être d'accord ou pas, mais finalement c'est comme ça que quelqu'un qui est pourtant très curieux écoute. Donc invitons-le et invitons cette écoute. Demain on en invitera une autre, et peut-être que petit à petit on créera des communautés d'écoutants, parce que finalement c'est ça ce qu'on veut faire, c'est faire communauté. Faire sens aussi dans la programmation de ce qu'on propose, fédérer. Il y a des choses très utopiques derrière, il y a des propos qui sont des propos de citoyens derrière, mais qui me semblent très très importantes dans la façon dont on doit en ce moment de avant de la crise de l'écoute, il y a quand même une crise du sens aussi, une crise de ce que l'on peut appeler le grand jeu, quoi, du désir et de la transcendance, qui sont visiblement plus au programme d'un ministère de la culture ou même d'un modèle européen, etc. Alors comment on le construit? On le construit en créant des communautés d'écoutants. J'aime cette phrase cette idée de Georges Didier Huberman dans Survivance des Lucioles, qui est ce texte qu'il écrit un peu en réponse à cette idée de Pasolini que les lucioles de Rome sont mortes par le feu des projecteurs, et qui est une analogie du fait que voilà, que le savoir ou que le désir est écrasé par les masses médias, pour ainsi dire, et par le divertissement. Didier Huberman passe par un texte de Walter Benjamin sur la question d'organiser le désespoir, et plutôt que cet idéal utopiste d'avant qui était la question de l'espoir, non, finalement constater qu'on est dans un certain désespoir, finalement, aussi en ce qui concerne nos matières de savoir et de désir. Et pourtant, essayer de remarquer ça et là, c'est un peu comme la fin d'Italo Calvino dans Les Villes Invisibles. Voilà, l'enfer des mortels est quelque chose qu'on voit tous les jours. On a deux attitudes, soit on s'y adonne jusqu'à ce qu'on ne voit plus que c'est l'enfer, soit au contraire, on essaie de voir qu'est-ce qui, dans l'enfer, ne l'est pas, et lui donner de la place et le faire exister. Ben, c'est un peu aussi ça, c'est-à-dire... Il y a des lucioles, elles sont là, il faut les connecter, il faut interconnecter ces communautés, les raviver pour donner du sens à la vie, tout simplement, et à au vivre ensemble.
Et vous avez choisi un compositeur qui, bien sûr, on le célèbre cette année, c'est Beethoven. Luciole ?
Oui, Beethoven, c'est la première luciole, je pense, pour un compositeur. Beethoven, c'est le jeu... C'est l'émergence d'un langage à un certain moment qui commence à être dans un jeu autour de la désarticulation des éléments qui bâtissaient la structure du langage classique jusqu'à présent. Pour moi, c'est ça Beethoven. C'est le fait de se concentrer sur une figure rythmique, de la réhabiller, de la faire varier, ce jeu de variation. Il y a quelque chose de spéculatif, d'extrêmement spéculatif et d'extrêmement jouissif en termes de jeu, justement, qui émerge chez Beethoven, tout en étant dans une transcendance, dans un programmatisme extrêmement de son temps, de son époque, Et c'est cet esprit beethovenien qui, je pense, porte en grande partie la démarche qui se retrouve aujourd'hui même dans la création contemporaine. On pourrait en parler d'autres, mais Beethoven, c'est quand même aussi ce rapport, comme je disais, à l'engagement politique, à prendre parti. C'était l'autre aspect de notre biennale. On voulait se dire que la biennale devait être aussi un endroit où créer une communauté d'écoute, mais aussi témoigner du fait que la musique contemporaine peut et doit et le fait ne se réfugie pas que exclusivement derrière des spéculations de matériaux, qu'elle traite aussi des sujets de nomadisme, des identités de genre, du rapport au vivant et à la planète, du rapport à la résistance et à la migration et à la démocratie. C'est pour ça que la biennale est parsemée ça et là d'actions comme ça, de programmes comme ça, et que Yannick Enel, encore une fois pour revenir vers lui, est quelqu'un qui est habité par cette question politique du sens dans les questions esthétiques et dans les questions profondes de notre société.
Et peut-être pour finir, j'irais pour une question qui serait un peu provocatrice, pour reprendre un peu une phrase de Rancière, la mésentente est-elle possible?
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi on voudrait tous être copains? Oui, la mésentente est possible, la mésentente est nécessaire, elle est salutaire, elle est le moteur du changement. Parfois on ne peut pas éviter le clivage, des fois on ne peut pas éviter de prendre parti. Dépolitiser des territoires, c'est les repolitiser pour les dominants. Voilà, effectivement. Maintenant, je pense que la mésentente, aujourd'hui, elle n'est pas là où moi je veux la placer. Je veux pas la placer plutôt là où les querelles de chapelle ou les querelles une qui émerge maintenant, l'écriture face à la non-écriture, c'est-à-dire le mépris de l'écriture. Je pense qu'il y a toujours des mésententes et qu'elles sont possibles. Dans notre festival, il y a beaucoup d'ouvertures, mais il y a aussi certaines choses qui ne sont pas représentées. Et dans Exploratoire, il y a pour moi quelque chose d'une attitude de ne rien donner pour acquis, quelque chose d'un rapport au langage à partir du moment où certaines démarches sont, à mon avis, moins acquise à cette éthique, je dirais, à cette approche, ont moins de place dans ma programmation. Voilà, c'est sûr qu'il y a une mésentente toujours quelque part, mais elle est peut-être déplacée.
Alors je vais faire une phrase qui est un peu provocatrice, puisque aux Oscars, j'écoutais France Culture ce matin, et aux Oscars, une des personnes regarde la salle et dit « il y a 12 noirs ». La musique contemporaine, il y en a zéro.
Ouais, dans la musique contemporaine, il y en a zéro. C'est une vraie question, celle-là, Omer, parce que on parle beaucoup de la question de la parité et on y veille, bien sûr, on y veille. On a représenté beaucoup plus, on va dire, les femmes, mais moi, je peux pas me dire que il y a un terme qui serait plus important que l'autre. Je pense que diversité est un terme plus important et on doit absolument œuvrer à la diversité. Alors bien sûr, on a une certaine diversité dans notre programmation parce qu'il y a des compositeurs qui sont non européens. Même, je dirais, non européens, un compositeur latino-américain, est-ce qu'il est européen? Ma réponse est oui. Donc non, c'est pas non européen parce qu'il vient du fin fond de l'Amérique latine, qui est un pays absolument européen. Non, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin dans ça, et c'est une vraie question, jusqu'où on va et comment on y va. On s'est posé cette question justement avec certaines candidatures qu'on a reçues pour le laboratoire interdisciplinaire, là, le LIPS, parce qu'on a eu une quinzaine de candidatures d'Afrique subsaharienne avec des démarches des fois très intéressantes de slammeurs griots, DJ, mais effectivement, on peut avec convoquer une vision très très occidentale et très européenne et trouver que qu'il y a des technicités aussi esthétiques, hein, pas que des technicités de savoir-faire qui ne sont pas encore là et qui sommes-nous pour dire qu'elles ne sont pas là? Est-ce qu'il ne faut pas entendre ces autres approches? Donc moi, c'est une question que je veux me poser dans l'action de plus en plus. Mais nous sommes quand même dans un monde dans lequel les savoirs, surtout en ce qui concerne le savoir culturel, je dirais la plus-value culturelle n'est pas est une source d'inégalité très très grande. C'est peut-être une des plus grandes. Et je pense pas que la réponse soit celle d'inclure forcément tout, mais plutôt de faire un pas de chaque côté, je pense. Je pense qu'il y a un truc de cet ordre-là. Là, je réfléchis à voix haute, hein. Je pense qu'il y a sans doute des choses à inclure davantage, mais des messages aussi à faire passer, des exigences. C'est tout le défi de l'excellence et de l'inclusion. Ce sont deux termes qui, en plus, sont très très vite récupérés dans ce que pourrait être une critique du populisme. Ça me force à vraiment me poser des questions dont je n'ai pas du tout la réponse, mais en tout cas dont j'ai le constat que la musique contemporaine ou la musique de création ne peut pas être exclusivement un langage d'hommes de plus de 50 ans occidentaux et assimilés, parce que je pense pas qu'il y ait aujourd'hui une si grande difficulté à accéder à ces savoirs et à ces techniques et à ces esthétiques juste pour une question, je dirais, de genre. Ce serait réduire le problème. Le problème est plus vaste.
Merci Sébastien.
Merci Omer.